Il est 6h04 à la météo. Ben, Zayas va nous frapper au cours des prochaines heures, mais ça va commencer aujourd'hui, des nuages, averses qui vont débuter tôt ce matin. Il y a aussi un risque d'orage, hauteur prévue de précipitation de 15 à 25 mm. Donc, ça va tomber dru. Maximum de 23 degrés pour aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, averse, hauteur prévue de 10 mm. Mais Zayas, au cours de la nuit, était en Caroline du Nord et remontait vers chez nous. Il devrait frapper quelque part au l'Estrie, là, en tout cas, là, au cours de la soirée. Donc, mercredi, ce sera généralement nuageux, 60% de risque d'averse. Il y a aussi un risque d'orage. Et ensuite, ça tourne au beau pour jeudi, vendredi, ainsi que samedi, que du soleil et des maximums qui vont avoisiner entre 26 et 29 degrés. Alors, il va faire beau, mais pour la deuxième partie de la semaine. Dans les différents quotidiens ce matin, évidemment, on fait la part belle à la COVID-19. C'était hier le rendez-vous. C'est maintenant rendu le rendez-vous hebdomadaire. Avant, c'était à tous les jours. Là, maintenant, c'est hebdomadaire. Puis M. Legault est plus là. M. Legault est en congé. C'est hier le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui tenait cette conférence de presse en compagnie du docteur Horacio Arruda. Hier, on a invité les vacanciers à se faire tester. Les gens qui se sont rendu là pendant les vacances de la construction dans les terrains de camping, entre autres choses. Moi, j'ai vu ça en fin de semaine là, dans les terrains de camping, que la distanciation était difficile à respecter. Il y avait beaucoup de gens qui se rassemblent le soir autour des feux de camp, et puis on respecte pas vraiment, il n'y a pas de port de masque, première des choses, ça n'existe pas sur des terrains de camping, à part dans les aires communes où c'est obligatoire, mais à part ça. Donc, on invite les gens qui pourraient avoir certains doutes et qui se sont peut-être rassemblés au cours des derniers jours, des dernières semaines, à plus de 10 personnes, à se rendre, se faire tester pour être certain là que on n'a pas le virus avec nous. Hier, le bilan faisait état de 123 nouveaux cas et 2 décès qui se sont ajoutés au bilan total depuis le début de cette pandémie. Et on parle surtout d'éclosions qui sont associées à des camps de jour. Il y a eu, entre autres, 2 moniteurs qui ont été diagnostiqués avec la COVID-19. Il y a des infections qui ont peut-être été notées également dans la population. Des éclosions constatées chez des travailleurs étrangers à la suite de rassemblements privés de 10 personnes. Et les rares décès qui ont été enregistrés depuis les derniers jours concernent, bien sûr, des personnes âgées. Et là, ben, il y a aussi tout le plan de retour à l'école qui devra être revu et corrigé, selon Christian Dubé, un plan qui a été présenté, c'était au mois de juin, mais là, on commence à se dire, les choses ont changé depuis ce temps-là, la situation a changé, la connaissance du virus a changé. Bref, au cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, on s'est contenté de dire hier que les discussions se poursuivent avec la santé publique et des échanges auront lieu avec les partenaires du réseau, lire ici les syndicats. Nous, on a tenté d'avoir M. Roberge en entrevue aujourd'hui, puis on nous a dit non, pas cette semaine. On va attendre à la semaine prochaine. Alors, le plan qui avait été annoncé en juin prévoit un retour en classe de tous les élèves à temps plein, sauf à la fin du secondaire où il y aurait où les écoles pourront opter pour une formule hybride. Et en classe, les élèves vont être regroupés dans ce qu'on appelle des bulles de 4 à 6 élèves, où aucune distanciation physique ne sera imposée. Et à l'extérieur de cette bulle-là, ben, il y a une distance d'un mètre avec les autres élèves qui devra être respectée. Alors, comment tout ça va s'appliquer et quelles sont les directives en termes de port du masque? Parce que là, on dit à tout le monde, on est obligé à l'intérieur de porter un masque, tout le monde de 12 ans et plus, mais dans les écoles, ce sera pas le cas. Alors, pourquoi? Donc, est-ce qu'on va changer de stratégie? En Ontario, par exemple, on a dit tous les élèves de plus de la quatrième année doivent, au-dessus de la quatrième année, doivent porter le masque. Alors, il y a plein de points à clarifier. Les syndicats, eux, demandent plus de sérieux dans l'application des nouvelles mesures. Et donc, on va essayer de s'attarder là-dessus un peu plus tard dans cette émission parce que ce plan de retour en classe n'est pas clair. Pour l'instant, c'est pas trop de quelle façon ça va se dérouler. Et ça, c'est intéressant dans le Journal de Montréal. Conséquence, n'est-ce pas, de la pandémie, ben, les gens se sont rassemblés plus longtemps entre eux. Ils ont passé plus de temps. Il y a des gens qui, euh, avaient plus de travail, et puis donc les couples ont testé les limites de la cohabitation jusqu'à un certain point, et les cas de séparation ont doublé selon des avocats qui ont été contactés par le Journal de Montréal. Les demandes de séparation ont doublé au Québec depuis le début de la pandémie de COVID-19. Et il faut s'attendre à une deuxième vague tout aussi importante, dit-on. Et pas seulement les séparations, mais aussi ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient déjà séparés ont demandé aussi des papiers légaux pour pouvoir mettre un terme, n'est-ce pas, définitif à l'union. Alors, il semble que, tu sais, on s'aime, là, mais pas tant que ça, dans le fond. T'sais. À un moment donné, là, il faut, on teste les limites. Il y a une policière également, toute la polémique du masque se poursuit. Il y a les gens qui sont contre le masque, et puis là, à chaque fois qu'on voit une exception, on part en fou avec ça. Alors, il y a une policière de la police de Québec qui s'est fait surprendre, c'était le jour même où entrait en vigueur le port obligatoire du masque le 18 juillet dernier. Elle s'est fait surprendre à l'intérieur d'un Tim Hortons sans porter le masque dans la ville de Québec. Et là, ben ça a permis justement aux gens de dire, ben c'est ça, il y a deux règles, il y a une règle pour les gens normaux, puis il y a une règle pour les policiers. Or, ce qu'on a dit, c'était effectivement un oubli, selon la porte-parole du SPVM, Sandra Dion à Québec. Mais il y a toutefois des exceptions qui doivent être notées quand les policiers font des interventions rapides dans l'urgence. On prendra pas le temps de mettre le masque. Donc, il y a des règles quand même qui sont particulières pour les policiers. Mais dans ce cas-ci, évidemment, la policière allait chercher un café. Il n'y avait pas d'urgence, à moins qu'elle était vraiment en manque de caféine. Mais dans un avis également qui est daté du 15 juin, l'INSPQ estime que les policiers ne sont pas obligés d'adopter des mesures supplémentaires comme porter un masque s'ils sont en mesure de garder une distance de 2 mètres lors d'une intervention. Alors ça explique aussi le fait qu'il y a des gens qui se sont fait arrêter, ont reçu une contravention sur le bord de la route et que finalement le policier qui leur a remis la contravention ne portait pas le masque. Eh bien, ça s'explique par mesure, n'est-ce pas, de l'INSPQ qui dit que si ça dure moins que 15 minutes puis vous êtes capable de garder une distanciation, les policiers n'ont pas à porter le fameux masque. Il est 6h12 minutes, on s'en va à la circulation avec Linda. Merci, Linda. J'ai terminé en parlant de la COVID sur cet article du Globe and Mail ce matin. Le Globe and Mail a fait une espèce de bilan pan-canadien, si on veut, de toutes les expériences liées à la COVID-19, parce que nous, on apprend des choses chez nous, l'Ontario, la Colombie-Britannique, puis l'Alberta, puis tout le monde a sa façon de travailler. Alors, il y a 4 leçons à tirer de la pandémie, selon les journalistes du Globe and Mail. La première leçon, c'est que le masque fonctionne, dit-on. Si tout le monde porte le masque, eh bien, ça va contribuer à contrôler la deuxième vague, mais il faut porter le masque, et ça, ce sont des faits qui sont scientifiques. Là, on parle pas d'une lubie dans la tête des journalistes, mais on a fait le bilan de tout ce qui s'est dit comme article scientifique. La deuxième leçon, il faut tester, retracer et isoler les gens qui ont la COVID-19. Ça fonctionne, dit-on. Et donc, si on le fait rapidement, eh bien, on peut maintenir une transmission qui va être extrêmement basse. Troisième leçon, il faut préserver la capacité des hôpitaux à recevoir des gens qui pourraient être touchés par la COVID-19, mais il ne faut pas non plus aller à l'extrême où on est allé en début de pandémie, c'est-à-dire d'arrêter tous les autres soins, parce que ce que ça fait, c'est amener d'autres problèmes que la COVID-19. C'est évident, là, on le veut avec le cancer. Si on retarde des traitements, ben il y a des cancers qui vont se développer davantage. Alors là, on a comme des victimes collatérales, finalement, de la fermeture des hôpitaux. Donc, il faut garder une capacité d'accueil pour les patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux, selon ce que dit la littérature scientifique, tout en maintenant, dans cette deuxième vague, les soins pour les autres types de maladies. Et la quatrième leçon, ben il faut bien sûr protéger les résidences pour personnes âgées, parce que c'est là que la pandémie a touché le plus gravement, finalement, les gens malades, c'est dans les CHSLD. Alors, ce sont les 4 grandes leçons à tirer. Bon, assez de COVID-19 pour cette revue de presse. Dans le journal Le Devoir ce matin, c'est très intéressant cet article de Jean-François Nadeau sur ce qui se passe à Clermont. À Clermont, dans Charlevoix, il y a une maison où a vécu Alexis le Trotteur, la légende Alexis le Trotteur qui courait, n'est-ce pas, plus vite que le train, plus vite qu'un cheval. Eh bien, c'est une maison qui est très connue dans Charlevoix. C'est une vieille maison qui date, je pense, de 1870, si je me trompe pas, ou dans ces eaux-là. Et elle a été abîmée par le feu au cours des dernières semaines. Et là, on est en train de se demander dans Charlevoix, est-ce qu'il faut préserver cette résidence ou si on peut l'acheter à terre? La ville disait, il n'y a plus rien à faire avec ça, on va l'acheter à terre. Alors que il y a des gens, n'est-ce pas, amoureux du patrimoine qui disaient, oui, mais c'est sûr que ça coûte plus cher. Est-ce qu'on pourrait pas préserver cette maison patrimoniale qui... est une espèce d'héritage de la culture populaire jusqu'à un certain point dans Charlevoix. Et c'est la Société d'histoire de Charlevoix qui avait sonné l'alerte ce printemps. On jugeait que de jeter par-dessus bord l'histoire du Québec et de ses monuments, c'était une erreur. Et finalement, le ministère de la Culture s'est penché là-dessus puis on a dit « Non, on protège pas cette résidence-là. » Donc, elle va être... il n'y a plus rien qui s'oppose maintenant à cette destruction puisque la ville de Clermont pourrait autoriser qu'on jette la maison d'Alexis le Trotteur à terre. Alors, ça ramène toute la question du patrimoine bâti au Québec. Écoutez, dans Charlevoix, là, il y a plusieurs résidences, il y a plusieurs bâtiments qui sont protégés par le patrimoine, donc qui sont reconnus comme étant des biens patrimoniaux, par le ministère de la Culture, puis on fait rien pour les sauver. De toute façon. Alors, c'est le cas du moulin César à Baie-Saint-Paul, la maison Leclerc à l'Île-aux-Coudres et même la maison René-Richard à Baie-Saint-Paul, qui est en plein milieu du centre-ville. Un endroit magnifique avec qui est resté dans le même état où René-Richard, un peintre célèbre de Charlevoix, est demeuré pendant des années et des années. Et là, cette maison-là, faute de moyens, est en train de tomber en décrépitude. Alors, ça donne quoi de donner des statuts particuliers à des résidences, si par la suite on les laisse tomber et dépérir de cette façon-là, c'est la question que pose ce matin cet article du journal Le Devoir. Bon, et on a beaucoup parlé de We Charity au cours des dernières semaines. Il y a un article très intéressant du Globe and Mail ce matin qui retrace les liens de cet organisme-là aux États-Unis. Les donateurs américains de We Charity, et je vais vous dire une chose, ils sont nombreux, et We Charity reçoit énormément d'argent, entre autres de grandes compagnies américaines, et on commence l'article en disant que le coach des Seahawks de Seattle, l'équipe de la NFL, Pete Carroll, est l'une des figures emblématiques, si on veut, de We Charity aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a travaillé avec les jeunes dans sa carrière alors qu'il était dans les rangs mineurs au football. Donc, qui est vu comme étant un symbole pour amener les jeunes au dépassement. Et We Charity s'adresse aux jeunes. Alors, M. Carroll a fait des dons, lui, à We Charity. Des dons assez importants. Et il a aussi amené... il a fait des dons de 1,4 million de dollars à la branche américaine de We Charity. Et il a amené d'autres anciens joueurs des Seahawks, Cliff Averill, qui a contribué à hauteur de 180 000 dollars. La Ligue nationale de football a aussi donné 200 000 dollars à We Charity. Et ça continue comme ça. On dit même que les frères Kilberger sont très, très... ont énormément de contacts aux États-Unis. Le prince Harry... La légende du football, du basketball, pardon, Kareem Abdul-Jabbar et d'autres athlètes ont aussi donné à We Charity. Et là, écoutez bien, les compagnies, il y en a plein. Et pas les moindres. Entre autres, il y a l'actrice Natalie Portman qui a gagné un Oscar pour la meilleure actrice et qui a donné 500 000 $ à We Charity. Magic Johnson, l'ancien joueur de basketball, a aussi donné 1,2 million par le biais de sa compagnie qui s'appelle Magic Johnson Enterprises. Et là, il y a d'autres grandes compagnies comme la compagnie Allstate qui a donné, tenez-vous bien, 92 millions de dollars à We Charity depuis 2011. Il y en a d'autres. Il y a des compagnies. En fait, même la compagnie Allstate a donné 92 millions, mais son président, Tom Wilson, a donné 400 000 $. Unilever, le géant des produits agroalimentaires, a donné 40 millions de $. Walt Disney, 10 millions. Microsoft, 40 millions. L'ancien président de Microsoft, Steve Ballmer, a donné 2,7 millions de $. Goldman Sachs a aussi donné 600 000 $. L'un des cofondateurs de Microsoft, Paul Allen, a donné 300 000 $. En fait, il y en a plein là comme ça, et ça descend. Facebook, un des dirigeants de Facebook a donné 1,2 million. Bref, il y a plein de grandes compagnies, dont Google aussi, qui a donné à cette la branche américaine, finalement, de We Charity. Alors là, on pose la question... Pourquoi, au juste, est-ce que cet organisme est... qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent, finalement? Comment on aide et pourquoi on est si accroché et si dépendant, si on veut, des grandes personnalités pour le financement de ces entreprises? Sur l'autoroute 15, Linda.